Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, en compagnie de nos deux invités dans cette nouvelle émission au fil des pages, je vous propose de taquiner le poisson avec la fabuleuse histoire du nom des poissons, du tout petit poisson clown au très grand requin blanc. C'est en effet le titre de leur livre paru aux éditions Robert Laffont en octobre 2011, un ouvrage à la fois naturaliste et étymologique pour nous faire découvrir les poissons de manière ludique. Henriette Walter, Pierre Avenas, bonjour.
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 Merci d'être avec nous au studio de Canal Academy. Henriette Walter, nos auditeurs vous connaissent très bien puisque vous avez réalisé pas moins de 20 émissions sur les langues de France, Languedoc, le basque, l'alsacien, le corse et j'en passe. Vous êtes professeur honoraire de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne et membre du Conseil supérieur de la langue française. Pierre Avenas, je me tourne vers vous, vous êtes polytechnicien, ingénieur au corps des mines, vous vous intéressez aux sciences naturelles en plus de vos activités professionnelles dans le domaine de l'industrie chimique. Et c'est vous qui avez initié avec Madame Walter un premier livre en 2003 intitulé « L'étonnante histoire des noms des mammifères » paru donc en 2003 et puis un deuxième « Mystérieuse histoire du nom des oiseaux » en 2007. Et donc fort de ce succès, jamais 203 et bientôt peut-être 4, le troisième, donc « La fabuleuse histoire du nom des poissons du tout petit poisson clown au très grand requin blanc ». Alors, je vous propose de commencer par une série d'expressions, puisque dans la langue française, les expressions empruntant les noms de poissons sont nombreuses. On dit par exemple « muet comme une carpe »,« plat comme une limande »,« faire des yeux de merlan frit »,« taquiner le goujon » ou, beaucoup moins élégant, « se faire apostropher du nom de morue ». Pierre Avenas, Henriette Walter, vous accordez une grande importance au nom des poissons dans les différentes langues, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien et le portugais, les langues européennes. Est-ce que ces langues regorgent toutes d'expressions très imagées exploitant les noms des poissons ?
Pas forcément pour tous les poissons, mais c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure « frais comme un gardon », en italien aussi, c'est la même chose, c'est comme un gardon exactement, « fresco come un Alaska ». Mais, il y a une autre expression qui est « sain comme un poisson ». On dit « sain comme un poisson », c'est-à-dire « sano come un pesce ». Et Pierre Avenas me rappelait que pour le requin...
Oui, pour le requin, toutes les langues sont d'accord pour considérer le terme de requin ou de shark en anglais ou pesce cane en italien, tiburon en espagnol, etc. C'est toujours l'homme rapace et cupide dans tous les domaines.
Donc on va y revenir.
Oui, parce qu'en fait, quand on pense au requin, on pense aux dents de requin. On a l'impression que véritablement, il va nous manger. Et puis, il y a bien sûr les étymologies bizarres de requins en français et dans les autres langues.
Et on va y venir dans quelques instants, si vous voulez bien. Effectivement, je donne encore un peu de suspense sur l'étymologie du mot requin. Juste avant, il existe, et vous le disiez en introduction dans votre ouvrage, pas moins de 30 000 espèces de poissons, et vous en avez sélectionné 250. Alors, comment s'est faite la sélection ? Henriette Walter ou Pierre Avenas, pour commencer.
Oui, nous cherchons à conserver les noms qui sont suffisamment usuels. Et pour cela, le critère, c'est qu'ils se trouvent dans les dictionnaires usuels, Petit Larousse, Petit Robert, Petit Hachette. Parfois dans les trois, pas toujours dans les trois d'ailleurs.
Une petite chose, puisque nous sommes à Canal Academy, nous n'avons pas pu prendre le dictionnaire de l'Académie.
Et
puisque,
pourquoi ?
Ah ben, il n'est pas terminé.
On il est toujours, pas. Il est en il perpétuel est toujours, renouvellement.
Et oui, c'est ça. Et donc, le troisième tome sera publié, je crois, le 15 décembre. Et donc, on ne pouvait pas.
Alors, venons-en au requin. Henriette Walter, je suis désolée, je vous ai coupé dans votre élan.
Vous
alliez avancer sur l'étymologie du mot requin.
Alors, on a plusieurs possibilités pour le français. Mais la plus rigolote, disons, la plus cocasse, la plus incroyable, c'est celle qui dit que ça vient de requiem. Pourquoi requiem ? Bien sûr, quand on voit un requin, peut-être que la seule chose à faire, c'est de faire sa dernière prière. C'est peut-être ça l'idée. Et on se dit quand même, c'est pas possible que des savants aient accepté cette étymologie complètement folle. Et en fait, ils ont accepté. Il y a des savants qui ont accepté cette étymologie. Ça existe, et ça existe même pour un nom de requin en anglais. Mais il y en a une deuxième, qui est peut-être plus acceptable, et qui est que ce serait requin. avec qu'un, qu'un étant. Alors évidemment, j'ai fait quelque chose sur le normand il y a quelque temps sur Canal Académie, et qu'un en normand ou en picard, c'est le chien. Qu'un, le qu'un. Et donc, requin, le re serait comme une répétition, comme quelque chose, comme un superlatif. Autrement dit, un chien extraordinaire, un chien très, très méchant et très, très dur. Et ça, c'est un petit peu conforté par l'étymologie en italien, puisqu'en italien, on dit pesce cane, c'est-à-dire, de nouveau, le chien est là. Donc, peut-être qu'il vaut mieux s'en tenir au poisson, à celui-là, plutôt qu'au requiem.
Voilà. Alors, pourquoi rapprocher le requin du chien? C'est pour sa mâchoire, j'imagine, mais peut-être aussi pour son flair, Pierre Avenès.
Absolument, oui, oui. On a aussi en anglais dogfish, hein, qui est bien de la même famille de pensée. Et en effet, les dents sont là, et en grec, le nom carcaras, carcarias en grec, qui est associé à un adjectif qui signifie dents de chien coupante, c'est bien là. Mais le flair est aussi important. Par exemple, en espagnol, on assimile le requin à chasseur. Le requin a une capacité à poursuivre un gibier à sa trace dans l'eau, comme le chien son gibier sur la terre ferme.
Alors on va rester dans le domaine des poissons-dents, si vous me permettez l'expression. Oui. Il y a un autre poisson bien connu et qui fait bien peur aussi dans l'univers des médias, c'est le piranha et ou piranha.
Oui. Je vous vois venir avec le piranha, et oui, bien sûr, qui est un nom qui signifie justement « dent », enfin
le poisson à dents,
qui a des dents. Et avec aussi, comme vous dites, on a très peur du piranha, mais il faut se rappeler que quand même tous les piranhas ne sont pas carnivores. Il y en a donc qui ne sont pas tellement méchants. Bon, le tout, c'est de les reconnaître. Voilà.
Mais j'ai appris dans votre ouvrage que, curieusement, le piranha est proche du saumon, fait partie des salmonidés. Pierre Avenès ?
Non, a failli faire partie des salmonidés. C'est-à-dire que Linné a placé certains de ses poissons dans le genre salmo, et encore après, Cuvier, Lacépède, ont hésité. Et aujourd'hui, la séparation est faite et on ne classe plus les piranhas dans les salmonidés. C'est vrai que souvent, les langues conservent la trace de classifications anciennes qui sont abandonnées, mais qui subsistent dans la langue commune.
On va rester, si vous voulez, dans les poissons un peu monstrueux. Il y en a un qui est un poisson d'eau douce, que l'on connaît très petit, qui est le poisson-chat, et qui se transforme en silure, poisson géant. Et alors, justement, quelle est l'étymologie du nom du silure?
Alors, ce qu'il y a, c'est que, déjà, les poissons-chats, il n'y en a pas qu'un ou deux, hein. Il y en a
3000
Il y en a près de 3000. Donc, véritablement, c'est...
Très étonnant.
C'est un poisson, vraiment... Alors qu'on ne les connaît pas du tout, je veux dire... Hein, poisson-chat.
On connaît le poisson-chat commun qu'on retrouve dans nos étangs, noir, avec des petites barbiches et des épines dorsales.
C'est ça.
Souvent, on emploie silure pour les plus gros poissons-chats, notamment le silure géant, qui est un des poissons qui, d'ailleurs, dévaste certaines de nos rivières. Le mot silure vient du grec, silouros, et il est en partie d'origine inconnue, parce que ouros, la fin ouros, on l'associe à la queue, c'est clairement, ça a voulu désigner quelque chose... Et c'est logique quand on voit cet immense poisson. Par contre, le radical « sil » est parfaitement inconnu en grec. Donc voilà un mot qui est à demi mystérieux.
Comme souvent dans les étymologies, hein, on est souvent un petit peu dans le noir. Hein.
Alors, un autre nom de poisson qui nous parle peut-être directement, c'est la rascasse. Alors, on revient au poisson de mer. Rien qu'au nom, on imagine quelque chose de rugueux, une roche.
Un scorpion.
Un scorpion, oui, puisqu'en anglais, on dit scorpion fish.
Exactement, exactement.
Et le mot rascasse lui-même n'est pas très, très agréable. Oui. C'est la teigne, en fait. C'est en provençal, rascasse. Ça désigne les taches que donne la teigne, et donc c'est le poisson teigneux.
Oui, mais il est intéressant quand même, parce que sans rascasse... Il n'y a pas de bouillabaisse.
Eh oui.
Or, la bouillabaisse, c'est quelque chose d'essentiel dans le midi.
Et c'est aussi quelque chose, alors vous me lancez sur ce sujet-là, Henriette Walter, à chaque fin de chapitre, vous mettez une recette de poisson.
Voilà, oui, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'idées qui se sont mélangées là et qui se sont succédées pour cette fin de chapitre. Parce qu'au début, on s'était dit, on va mettre des recettes, les plus typiques des poissons qui sont dans le chapitre. Et puis, on s'est dit, ben non, c'est bête, parce que finalement, tout le monde les connaît, c'est pas la peine. Puis on s'était dit, pourquoi pas donner au contraire une recette un petit peu originale, un petit peu particulière, que les autres n'auraient pas trouvée. Et puis là, je me suis dit quand même, nous ne sommes pas des chefs cuisiniers, tous les deux, on ne va pas être acceptés. Et finalement, l'idée de Pierre Avenès a été, non, on ne va prendre des recettes que lorsque la recette nous permet de dire quelque chose, du point de vue étymologique. Par exemple, bouillabaisse. Bouillabaisse, c'est quoi bouillabaisse? Ben, c'est qu'on va faire bouillir, et puis quand ça commence à bouillir, on baisse le feu, parce que sinon on abîme les poissons. S'ils cuisent trop bruyamment, j'allais dire, brutalement, disons, ils vont se défaire, et ça n'est pas bon. Donc la bouillabaisse, c'est ça. Mais on aurait pu prendre aussi la pissaladière. La pissaladière, parce que, bon, pissaladière, finalement, ça a quelque chose à voir avec la pizza. Enfin, je le dis à l'italienne, pizza, comme on dit en français. Mais qu'est-ce que c'est que ce pissa dans le pissaladière, hein? Eh bien, c'est quoi, là? De quoi s'agit-il? Il s'agit du poisson, du nom du poisson, qui, généralement, d'ailleurs, c'est des anchois. Hein, c'est bien ça.
Alors, puisque vous parlez du poisson, c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu commencer par la définition du poisson et de l'étymologie du poisson. C'est la première partie de votre chapitre, dans votre ouvrage. Pourquoi dit-on poisson et non pas pisci ou pesca, comme les Italiens, par exemple?
Exactement. Pêcher plutôt que poisson. Alors, on a rajouté un suffixe « on » à poisson. D'une part, pourquoi? Ben parce qu'on avait d'autres mots, sans doute, on avait d'autres mots en français qui pouvaient prêter à confusion. On a la poix et le poids. Hein, la poix, le poids, et on ne pouvait pas prendre un troisième.
Et les deux poids. Le petit poids
et l'autre. Donc on a vraiment beaucoup d'ambiguïté, disons, et avec le « on est tranquille, on a une distinction. Car on aime beaucoup les distinctions en français. Peut-être beaucoup, peut-être plus que dans les autres langues, je ne sais pas.
Puis un autre aspect, une origine indo-européenne très vraisemblable, qui se voit par le fait qu'on commence par un P dans poisson, dans piscis en latin, et que dans les langues germaniques, ça aboutit à fisch, fisk, avec cette correspondance entre le P et le F qu'on a dans père et dans father, classiquement dans les langues indo-européennes.
On va avancer, si vous voulez bien, sur des poissons un peu plus communs. On a parlé de la rascasse, on a parlé du piranha, on a parlé du requin. Parlons des poissons que nous consommons, notamment la sardine. La sardine nous vient de la Sardaigne,
Henriette Walter. Et oui. On considère que c'est ça, ça vient de cette région. Maintenant, quel est l'intérêt de la sardine? Finalement, elle est très, très, très commune. Et moi, j'ai pensé aussi, enfin, nous avons pensé à la sardine en escabèche. En escabèche, pourquoi en escabèche? Alors, bien sûr, c'est un mot qui est un emprunt et qui est une sauce. Vous savez, c'est un moyen de faire tenir le coup à la sardine, quand elle est cuite, du temps où on n'avait pas tellement de frigidaire, voyez-vous? Voilà, alors ça permettait de le conserver un petit peu mieux. Et d'ailleurs, la sauce en escabèche, c'est très bon. Mais on ne fait pas que des sardines en escabèche. On peut faire d'autres poissons.
Alors, la sardine se transforme en pilchard quand elle atteint une certaine taille.
Quand elle est grande.
Et puis,
Dans l'Atlantique.
Et puis, la morue se transforme en cabillaud. Alors, comment se fait-il que des poissons se mettent à changer de nom? Alors, voilà une colle, peut-être.
Alors là, il y a la distinction, déjà. En français, nous avons la distinction entre le cabillaud et la morue. Hein, la morue est séchée et le cabillaud est frais. Donc, et c'est toujours mieux de dire cabillaud, d'ailleurs, dans les restaurants.
Oui. Distinction qui n'existe pas au Canada, d'ailleurs. Car en canadien, on n'emploie pas le mot cabillaud. On ne connaît que la morue. L'origine de ces deux noms sont complètement différentes. Les deux origines sont complètement différentes. Morue, on l'associe peut-être à quelque chose comme brochet de mer, parce qu'en latin, le brochet, c'est lus, lus, lucis, et la mer, mort, donc morlu, morue, voilà. Alors que cabillaud, c'est beaucoup plus énigmatique. Il y a une origine germanique probable, puisqu'en allemand c'est cabillaud, on retrouve bientôt dans toutes les langues germaniques un nom qui est très ressemblant à cabillaud.
Alors, on va venir au brochet. Auparavant, un dernier poisson de mer aussi bien connu de nous tous, c'est le maquereau. Mackerel en anglais. Oui. Est-ce que, justement, le fait de penser à ces entremetteurs des maisons closes a un lien avec le poisson?
On a pensé ça, mais c'est une
forte possibilité, mais le lien n'est pas dans le sens qu'on croit, et c'est ça qui est le plus extraordinaire, je trouve. Parce qu'en réalité, le mot mackerel, pour désigner entremetteur, qu'on retrouve dans maquignon, par exemple, c'est une racine qui est bien antérieure à l'appellation du poisson. Et pour une raison qui est vraiment très étonnante, dans des dictionnaires étymologiques anciens, on a vu le maquereau comme possible entremetteur entre les harengs, dans les bancs de harengs.
Parce qu'on les a trouvés avec.
Il y a comme ça des tas de légendes sur les sciences naturelles tout à fait efférentes. Et donc, le mot maquerel s'est appliqué au poisson. Donc, si ça a eu lieu, c'est dans ce sens-là. Bon, après, bien entendu, dans l'argot, c'est revenu au maquereau, au sens argotique. Puis l'autre idée, c'est que ce soit un poisson taché, simplement. macula la tâche, macrelle, macreala. En italien, il y a un vieux mot qui est macarella et qui pourrait simplement dire poisson taché.
C'est ça, parce que la macchia en italien, c'est la tâche, tout bêtement.
Alors, je le disais, on allait venir au poisson d'eau douce. Vous parliez de la morue comme étant le brochet de mer. Parlons du brochet d'eau douce, si vous me permettez. Puisqu'on a commencé par parler des poissons aux dents proéminentes, je crois que le brochet aussi, d'où son nom.
C'est la même chose.
C'est la même chose.
Exactement.
Henriette Walter.
Évidemment, on a évidemment le croc, disons, le croc.
Brocus.
D'accord.
Le brocus. Et la broche, n'est-ce pas? C'est la même étymologie.
Et le bro aussi, le bro, le bro parce qu'il a un bec pointu. Et le verbe brocarder d'ailleurs, qui signifie piquer son adversaire par des paroles piquantes. Donc tout ça, c'est un ensemble.
Et
puis ce qui est intéressant de dire, c'est que c'est...
En anglais, bien sûr, pike.
Pike qui est la même idée. En allemand aussi, hecht qui est la même idée. Mais ce qui est intéressant de signaler là, c'est que c'est un mot gaulois. Un brochet, c'est considéré comme un mot gaulois. Et il y a pas mal de noms de poissons gaulois. On en a trouvé une bonne douzaine.
Oui, surtout pour les poissons.
Plus que poissons d'eau douce. Toujours, pratiquement.
Toujours pour les poissons d'eau douce.
Et alors que les poissons de mer auront souvent des noms grecs, bien sûr. Mais c'est quand même particulier à ce monde des poissons, parce que dans les mammifères et dans les oiseaux qu'on a explorés précédemment, on avait très très peu de noms gaulois.
Gaulois. Un autre poisson que nous connaissons bien, c'est le gardon. Alors pourquoi le gardon s'appelle-t-il le gardon?
En français. Il donne l'impression qu'il garde, parce qu'il tourne toujours autour du même endroit. Et on a l'impression que véritablement, il y a un trésor là et qu'il est là pour garder. De même que le gros...
Ouais, quand on le chasse, au bout d'un moment, il revient.
De même que le grondin, on se dit, bon, il gronde, hein, il grogne un peu, donc c'est très imagé, finalement.
Vous parlez du poisson qui grogne. Hein,
et de poisson qui... Exactement, le poisson qui grogne, alors que le poisson est normalement muet comme une carpe.
Comme une carpe, hein,
voilà.
Comme le veut l'expression.
Mais pas tous.
Mais pas tous, voilà, il y en a qui grognent un petit peu. Et je crois que Pierre voulait insister un petit peu sur ce que nous faisons, disons, dans tous ces livres sur les noms des animaux, que ce soit les mammifères, les oiseaux ou les poissons.
Oui, tous ces livres répondent à une sorte de philosophie qui est de présenter la langue de manière donc étymologique et multilingue, en profitant ainsi de la comparaison entre les langues. Souvent, plusieurs langues donnent éclairent la même réalité sous des angles différents. Par exemple, on connaît bien la baudroie, qui est un nom qui vient plus ou moins du crapaud, mais curieusement, en anglais, on va l'appeler monkfish et on le compare à un moine, ce qui est un peu bizarre, mais on peut aussi trouver une tête de moine. Mais en allemand, c'est Teufel, c'est-à-dire le diable de mer, oui. C'est encore autre chose.
Voilà. Ah oui, non, mais c'est incroyable cette lotte.
Enfin, et puis
parce
finalement,
que, évidemment, je dis tout de suite lotte, parce qu'en fait, la baudroie, c'est la lotte.
C'est la lotte.
Mais
hein.
Alors, avec une petite distinction, encore, on est terrible avec nos distinctions en français, puisqu'on a la lotte de rivière et la lotte de mer. L'une, c'est avec deux T, l'autre, c'est on garde un seul T. Pour distinguer, justement, parce que attention, on ne va pas dire n'importe quoi.
Terminons sur un dernier poisson d'eau douce que les pêcheurs connaissent bien, c'est la perche. Puisque vous parliez de poisson tacheté, je crois que la perche aussi est une manière de dire que c'est tacheté.
Absolument, c'est une racine indo-européenne.
Perqué en grec, perqué. Déjà, c'est un des cas qui vient directement du grec. Et perque, c'est la racine indo-européenne de tacheté. Pour les ornithologues... on connaît le faucon percnoptère, qui est le faucon tacheté noir et blanc. Eh bien, le perque de percnoptère, c'est le même que celui de la perche.
Alors là, évidemment, on en arrive à des noms très, très, très savants et très grecs. Alors, bien entendu, ça nous fait tout de suite penser, quand on pense au nom grec, on pense à l'hippocampe. Hein,
hippocampe, dont on n'a pas parlé.
Que fait le cheval là-dedans, hein? Il a simplement une tête de cheval.
Mais voilà. Puisque vous parlez d'hippocampe, on comprend que c'est cheval, mais
camp.
C'est quelque chose comme chenille, animal recourbé. C'est une tête de cheval posée sur une chenille. Voilà, un hippocampe.
Oui, alors il y a souvent des poissons comme ça qui ont une tête de quelque chose. Après, ils ont de se terminer comme un... pas en queue de poisson, mais comme un serpent, comme un serpent, une chose comme ça. Et moi, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, mais je comprends bien, c'est le régalec. Le régalec.
Alors le régalec, rappelez-nous.
Voilà, le roi des harengs. C'est-à-dire que c'est un poisson qui est extrêmement long.
Oui.
Extrêmement long.
Gigantesque. 10 mètres.
10 mètres, c'est incroyable. Quand vous pensez à un poisson comme ça, qui est comme un long tuyau comme un serpent. Et c'est peut-être aussi l'origine de l'expression de serpent de mer. Vous savez, serpent de mer, on ne sait jamais d'où il vient, qu'est-ce qu'il vient faire là, etc.
C'est là, donc, on aura dans toutes les langues aussi. On l'a aussi.
Oui, sea snake.
Voilà. Alors, on arrive au terme de notre émission. Je crois savoir que maintenant que vous avez publié cet ouvrage sur la fabuleuse histoire du nom des poissons, vous allez vous intéresser au végétal.
Oui, c'est ça. Mais pour commencer, aux arbres. Parce que finalement, les arbres sont énormes. C'est mieux que de commencer par les fleurs. Peut-être qu'après, on fera les fleurs. Mais pour l'instant, les arbres, c'est tellement impressionnant. C'est tellement... Puis là, on est bientôt à Noël.
Plein de mythologie aussi. Plein de mythologie, les arbres. Oui, l'arbre de Noël, se présente.
Hein, n'est-ce pas? C'est maintenant qu'on va commencer. Ce sapin qui est un épicéa, en fait. Ou souvent un épicéa. Et donc, voilà, il y a le pin, le sapin. Il y a beaucoup de choses à dire avec ces chênes qu'on abat.
Eh bien, je vous remercie. En tout cas, j'invite nos auditeurs à consulter votre ouvrage parce que je le disais en préparation de cette émission avant d'enregistrer que ça se lisait comme un bonbon. Voilà, il y avait l'aspect effectivement plus scientifique, des noms et un peu plus pointu et en même temps ludique. Donc, c'est une manière de donner aux gens des noms grecs qu'ils n'auraient pas forcément consultés sinon.
Exactement. Oui. Et c'est grec un petit et peu. Latin. On a envie de donner aux gens envie aussi d'en connaître un petit peu plus en leur donnant quelques pistes. Vers des films, vers des pièces de théâtre ou dans des romans, et puis quelques petites bizarreries avec Pinocchio ou Jonas qui ont été avalés, non pas par une baleine comme tout le monde le pense,
mais par un requin.
Mais par un requin. Voilà. Et on finit avec
le requin. On termine par une note bien triste.
Oui.
En tout cas, je vous remercie. C'était une aventure très intéressante qu'on lit avec passion, la fabuleuse histoire du nom des poissons, du tout petit poisson clown dont nous n'avons pas parlé, au très grand requin blanc que nous avons évoqué très rapidement. Donc, ouvrage publié aux éditions Robert Laffont en octobre 2011. Merci à tous les deux d'être venus nous voir et puis j'espère à bientôt pour la sortie du prochain ouvrage. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.